rencontre. Acteur. Initiative locale. Culture. Mémoire. Patrimoine. Tout ce qui fait l'actualité est dans votre magazine sur Radio Plus.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans ce mardi magazine. Julien avec vous pour un numéro consacré à une thématique souvent méconnue, celle de la santé des artistes. Troubles musculo-squelettiques, mauvaise posture de travail, extinction de voix, dépression, perte auditive, les facteurs de risque sont nombreux pour les musiciens et les artistes en général. Et leur santé est un atout parfois négligé par les artistes eux-mêmes qui préféreront sans doute tout mettre en œuvre pour assurer leur date de prestation, tant pour ne pas décevoir le public que pour répondre également à des impératifs économiques avec la nécessité d'assurer leurs prestations pour obtenir le précieux cachet de l'artiste. Principe négligé aussi parfois par les personnels soignants. Finalement, assez peu au fait des maux des artistes, peut-être à ne pas traiter comme des patients comme les autres. Pour sensibiliser à cela, l'association APSAR, Association Prévention de la Santé des Artistes, est sur le pont dans notre région et va organiser la 4e édition de la Semaine de la Santé des Artistes, prévue à partir du 3 octobre prochain. Pour évoquer tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir le président d'APSAR, Stéphane Cognam. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'association APSAR ?
L'association APSART, c'est donc, comme ça a été dit juste avant, donc l'association de prévention santé des artistes. Nous avons plusieurs actions. Donc en fait, nous avons par exemple, depuis 4 ans, mis en place un annuaire de thérapeutes spécialisés dans la pathologie des artistes, c'est-à-dire donc des thérapeutes qui sont soit diplômés de médecine des arts, par exemple, soit depuis longtemps travaillent auprès d'artistes, par exemple parce que leur cabinet est à côté d'un conservatoire ou d'une école de musique, Ou ce sont des thérapeutes qui sont artistes eux-mêmes. Et donc, depuis 4 ans, par exemple, une des actions, c'est de mettre en place cet annuaire thérapeutique gratuitement à destination de tout le monde.
Alors, l'identité d'APSAR, c'est, je cite votre présentation sur votre site internet, de faire de la prévention primaire, secondaire et tertiaire en proposant des actions originales et créatives. Concrètement, ça consiste en quoi ?
Alors concrètement, donc la priorité, c'est d'aller là où on ne parle jamais de la prévention des artistes, donc où on parle justement de pédagogie. Et par exemple, on parle des conservatoires et écoles de musique où les élèves sont là pour apprendre la musique, mais on ne leur enseigne pas forcément comment bien se tenir et comment bien travailler leur instrument en fonction de leur posture. Et donc APSART intervient avec ses thérapeutes dans ces structures culturelles. Intervient également dans les structures où on ne parle pas d'artistes ou d'artistiques, comme par exemple les écoles d'optique, les écoles de kiné ou d'ostéo, pour former et informer les futurs professionnels de santé à prendre en considération les problématiques des artistes.
Mais alors justement, comment ça se passe, cette sensibilisation des professionnels de santé ?
Alors, par exemple, concrètement, lorsque nous sommes intervenus à l'école d'optique de Lille, nous avons fait une intervention de 2 heures sur quelles étaient les problématiques oculaires des artistes pendant leurs prestations. Donc, les futurs les étudiants actuels en optique ne se rendent pas compte forcément qu'un musicien a besoin de voir en même temps et ses doigts et les cordes et la partition et le chef d'orchestre et le public. Et parfois éclairé avec des projecteurs ou des fois dans l'ombre, dans une fosse d'orchestre où il n'y a pas beaucoup de lumière, etc. etc. Donc l'intérêt, c'est d'intervenir avec ces thérapeutes pour sensibiliser et parler concrètement des problèmes rencontrés par les artistes.
Et d'autant que, pour reprendre l'exemple que vous citez, on imagine qu'une action répétée de ce type, ça peut justement accélérer la fatigue de la vue, ça peut accélérer l'apparition de problèmes liés à la vue.
Oui, tout à fait. Donc c'est l'idée aussi justement de pouvoir prendre le plus en amont possible les problématiques, d'une part en formant les futurs professionnels de santé, mais aussi en intervenant dans les écoles de musique, conservatoires ou écoles de danse, le plus tôt possible auprès des élèves et donc des plus jeunes élèves, pour que eux aussi prennent en considération ces problématiques.
Et est-ce qu'ils sont réceptifs justement, ces futurs professionnels de santé ?
Alors au début c'est un peu bizarre. C'est vrai que quand on intervient, on est un peu regardé un peu comme des bêtes curieuses, en disant voilà, qu'est-ce qu'ils viennent encore nous parler ceux-là. Bon, en même temps, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, c'est pas des profs, donc c'est un peu comme les enfants, vous savez, quand c'est les parents, donc les profs qui leur disent des trucs. Bon, voilà, allez, on écoute et puis on est bien sage. Quand c'est des intervenants extérieurs, c'est quand même un peu plus sympa. Et en fait, on leur parle quand même de choses assez différentes et donc ça les intéresse beaucoup. Et souvent, quand on intervient une fois dans des établissements comme celui-là, ou même dans les écoles de musique et conservatoires, le premier pied est le bon. Donc, on a passé la première marche et souvent, on est invité à revenir plusieurs fois pour continuer à toucher plus de monde et à parler aussi d'autres pratiques thérapeutiques possibles.
Alors, cette collaboration que vous mettez en place avec le milieu médical et paramédical, elle va au-delà de la simple sensibilisation dans les écoles de futurs professionnels, puisque vous avez un véritable réseau de structures partenaires et un réseau qui va au-delà de nos frontières, puisque on peut citer par exemple la clinique de médecine des arts de Rome en Italie, l'association de Rolfing de Cordoba et Madrid en Espagne, l'association des ergothérapeutes Ergo Élan de Genève en Suisse, ou encore la clinique des musiciens à Québec, et puis bien sûr aussi des structures françaises, Franche-Comté, Mission Voix, Centre Médical de la Bourse à Paris, le Conservatoire de Musique de Caen, l'Association Azuréenne de Phoniatrie. Comment ça se construit tous ces liens avec ces structures, y compris du coup à l'étranger?
Alors c'est assez compliqué paradoxalement, parce que chacun intervient dans son coin, et la difficulté c'est vraiment de mettre en place un réseau. Alors depuis 4 ans, on travaille vraiment en direct, on les appelle, on prend contact par mail, on insiste une fois, deux fois, trois fois, dix fois, enfin on ne l'a jamais le morceau. Et souvent c'est très simple, parce que au premier contact, c'est tout de suite « Ah super, mais on est content enfin que quelqu'un d'autre fasse un peu comme nous ». Donc tout de suite, oui, le partenariat se met en place, et des fois ça prend beaucoup plus de temps, sur lequel il faut arriver à convaincre, parce qu'il y a aussi... des impératifs pour certains de garder un peu leur précaré ou mais c'est quoi encore cette nouvelle association, on a déjà été sollicité par d'autres projets mais à partir du moment où on a commencé à montrer aussi que voilà, on est là pour le bien des artistes, tout de suite le projet se met en place et les liens perdurent depuis pas mal d'années maintenant.
Et vous mettez justement à jour régulièrement et à disposition un annuaire de ces thérapeutes qui sont spécialisés dans la prise en charge des artistes. Comment est-ce que vous les repérez? Comment est-ce que vous les sélectionnez? Parce que on imagine qu'il y a un tri qui est fait en amont avant de rajouter ces thérapeutes dans votre annuaire.
Ah oui, tout à fait, on est très sectaires, nous, dans Repsart. Donc, on fait le choix. Alors, le choix se fait justement donc parce que ce sont des artistes, des thérapeutes qui sont diplômés de médecine des arts, puisque à Paris existe via l'association un organisme privé une formation en médecine des arts sur 2 ans. Donc certains thérapeutes sont diplômés de médecine des arts. Donc c'est 2 ans où on apprend justement quelles sont les difficultés rencontrées par les artistes. Donc certains des thérapeutes sont diplômés de médecine des arts, donc ont forcément une formation spécifique. D'autres sont un peu plus spécialisés depuis pas mal d'années auprès des artistes, parce qu'ils interviennent dans les conservatoires ou ils sont installés à côté d'une école de danse, et donc leur patientèle est régulièrement des artistes, ou eux-mêmes sont thérapeutes et artistes en même temps, donc font de la danse, de la musique ou en ont fait, et donc ils connaissent la problématique. Et mais on accueille aussi d'autres thérapeutes, mais au départ on leur propose simplement de les accompagner justement à découvrir ce milieu artistique, parce qu'ils ne le connaissent pas mais ils ont envie de le découvrir. Donc on met en place avec eux des projets dans des écoles ou conservatoires, ils nous accompagnent en duo avec un autre thérapeute, comme ça ils découvrent le milieu artistique, et quand ils se sentent prêts et que nous on sent qu'ils sont prêts, on les accueille dans le réseau et on met en place des projets avec eux.
Et une fois qu'ils ont été cooptés, on dira ça comme ça, comment ça se passe ensuite? On imagine qu'il y a un suivi, des contrôles?
Oui, tout à fait. Alors, le contrôle se fait surtout par les artistes qui vont voir les thérapeutes. Si tout de suite, on a un artiste qui nous envoie un message en disant « Ouais, là, le thérapeute, quand même, il est un peu moyen. Il m'a parlé vraiment n'importe quoi. Il comprend pas et qu'on rien à la problématique. » Bon, à ce moment-là, oui, on en reparle avec le thérapeute, et puis ça nous est déjà arrivé de retirer quelques thérapeutes du réseau, parce que justement, ils n'avaient pas cette approche et cette sensibilité auprès des artistes.
Et pour terminer justement sur le volet des différents rôles d'APSAR, vous disposez aussi d'un cabinet thérapeutique, expliquez-nous.
Oui, alors on a eu l'idée de créer le premier cabinet thérapeutique en France, qui est basé donc à Armentières. Et on en est très fiers de l'avoir installé à Armentières et dans le Nord. C'est un cabinet qui, tous les jours, accueille par demi-journée un thérapeute différent. spécialisé dans les pathologies des artistes. Donc les artistes peuvent simplement aller sur le site internet de l'association, voir le planning d'occupation, et donc dans ce cabinet, ils peuvent prendre rendez-vous avec une ostéopathe qui est elle-même musicienne et donc spécialisée dans les pathologies des musiciens, une posturologue, une naturopathe, une réflexologue, une praticienne en EFT et réflexes archaïques. Et puis également une énergéticienne.
Mais c'est finalement une vraie maison de santé que vous avez là.
Tout à fait, on aimerait bien d'ici quelques temps créer une vraie maison médicale, une vraie maison de santé, identifiée comme telle pour les artistes.
Mais alors justement, se pose aussi la question, même si on détaillera ce fait un petit peu plus tard, de l'accessibilité financière pour les artistes qui viennent consulter. Est-ce que, quelles sont un petit peu les conditions pour pouvoir consulter? Alors évidemment, être malade ou du moins en souffrance, ça c'est une première condition. Mais est-ce qu'il y a des conditions spécifiques pour pouvoir bénéficier des services du cabinet thérapeutique?
Alors la condition n'est pas forcément d'être malade ou en souffrance, c'est justement peut-être d'arriver à devenir avant d'être malade et en souffrance, puisque quand on parle de prévention primaire, le but c'est de venir consulter des thérapeutes avant même d'être malade, ou en tout cas en prévention secondaire, d'avoir déjà quelques douleurs, mais de ne pas être obligé d'arrêter son activité. Donc ça c'est de venir le plus tôt possible. Et après, donc les conditions tarifaires sont les mêmes que d'aller consulter un thérapeute dans son cabinet, donc en fonction de chacun des thérapeutes. L'idée aujourd'hui, par Absart, c'est maintenant que le cabinet est ouvert, c'est de lancer un appel aussi à des différents financeurs, que ce soit privés ou publics. Ça fait quelques années qu'on le fait, mais c'est difficile de pousser les portes et d'avoir des réponses. Mais l'idée, c'est de pouvoir permettre aux artistes de pouvoir venir et de consulter, d'avoir le minimum de contributions financières à nous donner, donc à payer, et que cette contribution financière soit payée justement par des partenaires mutuels, assurants, etc., autres, qui voudraient bien être partenaires avec nous.
Vous êtes sur Radio Plus, à l'occasion de ce numéro de Mardi Magazine, on parle santé des artistes avec l'association APSAR.
Radio Plus sur internet au www.radioplus.fr et par téléphone au 09 52 22 22 07. Radio Plus, la radio pas comme les autres.
Notre invité en ce mardi, Stéphane Cognam, le président de l'association APSAR, association prévention santé des artistes, et nous sommes ensemble pour parler justement de toutes ces thématiques autour de la santé des artistes. Et qui dit santé des artistes dit aussi chiffres. On va en évoquer quelques-uns parce que justement votre association relaie quelques chiffres dans son dossier de présentation. Des chiffres qui sont assez surprenants. D'ailleurs, j'ai appris en lisant le dossier que 90% des musiciens interrogés dans une étude sont atteints de troubles musculo-squelettiques en relation avec la durée de la pratique instrumentale, et que ça amène quasiment 3/4 de ces musiciens touchés à diminuer leur pratique instrumentale, voire même à restreindre pour 53% d'entre eux leurs activités de la vie quotidienne. Ça veut dire finalement que quand on est musicien, a fortiori musicien professionnel, on risque forcément d'avoir des conséquences à long terme sur sa santé.
Ouais, tout à fait. Donc tous ces chiffres sont éloquents, et quand on regarde un peu tous les chiffres, on s'aperçoit que c'est un domaine, le domaine du milieu artistique n'est pas très suivi par les médecins et par les études. Et quand on est professionnel, mais pire amateur, on a beaucoup de douleurs. Souvent, les professionnels sont souvent suivis par un kiné, un ostéo particulier qui les suit des fois en tournée ou qui sont mis à disposition dans les structures. Mais le pire, ce sont plutôt les amateurs qui, eux, travaillent déjà dans la journée, donc font leurs 7h, 8h de travail, et puis rentrent chez eux après la journée de travail, s'occuper des enfants, faire les courses, etc., s'occuper du quotidien, et après vont faire 1 heure, 2 heures de musique, 2 heures de danse, et avec des spectacles pour, potentiellement les week-ends. Donc c'est là où il y a le plus de risques pris.
Et d'ailleurs, ça ne concerne pas uniquement la santé physique, ça concerne aussi la santé psychique, mentale, de plus en plus d'ailleurs.
Tout à fait. Donc pas mal d'études sortent en ce moment sur la santé mentale, notamment des musiciens, mais des études aussi américaines sont sorties sur la santé mentale dans le milieu du hip-hop, dans le milieu de la danse. Donc il y a beaucoup de... les artistes, qui soient amateurs ou professionnels, sont confrontés, comme ça a été dit au tout début à l'introduction, à une multitude de risques.
une multitude de risques qui forcément impactent aussi leur santé mentale, avec toujours beaucoup, beaucoup de tabous autour de ces questions.
Oui, beaucoup de tabous. En fait, quand on parle de santé des artistes, on s'aperçoit que beaucoup de musiciens, par exemple, ou même de danseurs, se mettent pas en arrêt ou prennent pas soin d'eux, parce que justement, avoir une douleur quand on est musicien, ça veut dire que on peut être potentiellement, on est forcément catalogué comme étant un mauvais musicien, parce que si moi, en tant que musicien, je n'ai pas de douleur, pourquoi toi tu en as? Ça veut dire que tu es mauvais. Puisque en tout cas tu es moins bon que moi, et c'est la même chose aussi pour des danseurs. Si on se blesse, ça veut dire qu'on a fait un mauvais mouvement, qu'on a fait un mouvement qu'il ne fallait pas. Et dans ce cadre-là, pour ne pas le montrer, les artistes continuent à travailler et donc mettent des attelles ou prennent des médicaments pour calmer les douleurs et donc prennent font de l'automédication, ce qui est encore pire que mieux.
Et finalement, c'est vrai que le cliché grog plus anti-inflammatoire, ce n'est peut-être pas qu'un cliché finalement.
Non, c'est pas vraiment un cliché. Il y a pas mal d'études aussi qui sont sorties sur le fait de l'utilisation des bêta-bloquants chez beaucoup de musiciens et d'artistes professionnels. Mais amateurs, il n'y a pas d'études qui est faite, mais les bêta-bloquants servent quand même à diminuer le stress. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'artistes amateurs et professionnels qui prennent des bêta-bloquants qui deviennent après un problème de santé. Mais il y a aussi les problèmes d'addiction. Donc le fait simplement de boire une bière, deux bières, trois bières avant le spectacle, après le spectacle, entre amis. Donc il y a, ou pour faire passer justement le stress, il y a toutes ces questions-là d'addiction aussi qui existent.
Et autre facteur en lien peut-être aussi avec ces questions d'addiction, ou qui du moins peut découler vers ces questions d'addiction, j'ai l'impression que la notion d'isolement de l'artiste revient beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a toute cette phase où un artiste, quel qu'il soit, va être en tournée, va être en déplacement avec ses collègues, musiciens, danseurs, avec son producteur, son staff. Et d'un coup, la tournée s'arrête, quelle que soit la raison, parce qu'il faut prendre un peu de vacances, parce qu'il faut prendre un jour off, parce qu'il y a une pause entre plusieurs dates. Et là, finalement, au lieu d'être quelqu'un d'accompagné, le musicien se renferme dans sa solitude, le musicien, l'artiste se renferme dans sa solitude.
Oui, il se retrouve seul. Donc, c'est à partir du moment où vous faites, vous vivez un spectacle, des tournées, des rencontres, des concerts, qu'ils soient petits ou grands, vous avez une émotion qui est présente. Et après, vous revenez chez vous dans le quotidien. Donc, alors certains artistes ont besoin de s'isoler. Donc des fois ils n'y arrivent pas parce que ils sont sollicités par les amis, c'était comment, par la famille, par le quotidien qui revient. Je le rappelle, beaucoup sont amateurs, donc après un concert, le lendemain matin, des fois ils retournent au travail alors que ils n'ont pas forcément envie, ils sont encore dans l'émotion, ils ont envie de prendre du recul, ou le concert s'est mal passé, donc ils ont besoin aussi de prendre beaucoup de recul là-dessus et d'en parler aussi, donc alors qu'ils n'ont personne pour en parler. Et d'autant plus avec la période qu'on vit actuellement de Covid, il y a beaucoup d'artistes qui se retrouvent aussi isolés. Ils ne peuvent pas créer, ils ne peuvent pas partager avec le public, ils ne peuvent pas travailler avec les autres. Et donc là, on a aussi cette période de difficulté psychologique en plus de la difficulté sanitaire.
La crise du Covid, justement, on en parle. Évidemment, il n'y a pas encore d'études sur ces questions et sur ces impacts. Il est beaucoup trop tôt pour parler de cela, d'autant que le virus continue de circuler. Néanmoins, est-ce que, sans trahir de secrets médicaux, dans vos cabinets, chez les thérapeutes avec qui vous êtes partenaire, on a des artistes qui ont besoin de parler de l'angoisse que peut générer le Covid, comme elle peut en générer dans la vie quotidienne du citoyen lambda?
Alors au niveau du cabinet, moi je m'occupe plus de la posturologue, donc je vais pas parler pour les autres collègues. Les artistes que je reçois pour travailler sur la posture, forcément on parle aussi de l'isolement actuel, puisque de toute façon être stressé à cause de l'isolement, ça occasionne forcément des douleurs. Donc les douleurs qui n'étaient pas forcément présentes avant la période d'isolement et de confinement et qui sont présentes maintenant, ont aussi des relations avec le fait de se sentir isolé, de se sentir stressé par cette période, mais aussi pour l'avenir, puisque c'est un peu compliqué de construire actuellement des projets de tournées, de concerts, de projets artistiques, qu'on soit dessinateur, graffeur, musicien ou danseur.
Mais alors, au-delà de la question du Covid, comment on lutte contre l'isolement ? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution ?
Alors, comme tout problème n'a jamais qu'une seule cause, les solutions vont forcément être multiples. L'idée, c'est à chaque fois vraiment de, et c'est ce qu'essaye de faire Absart, c'est de proposer une multitude d'approches. Et pour déconstruire son isolement, ou en tout cas s'approprier une meilleure façon d'appréhender son isolement, parce que l'isolement n'est pas forcément néfaste. Quand il peut être souhaité et désiré, il faut savoir aussi l'appréhender. Et donc on a avec nos thérapeutes, il y a pas mal d'approches. Il y a les approches avec la sophrologie, avec le Feldenkrais, avec le EFT, avec tout ce qui est pleine conscience. Il y a aussi tout ce qui est l'alimentation avec la diététique, la naturopathie, la réflexologie. Donc il y a beaucoup de choses qui permettent justement d'appréhender l'isolement, mais aussi la vie quotidienne des artistes pour justement réduire et la souffrance psychologique et la souffrance physique, puisque les deux sont de toute façon liés.
Alors j'ai pu, en préparant cette émission, me rendre compte que les médecines dites douces ou dites alternatives prennent une part prépondérante dans le traitement thérapeutique des problèmes de santé des artistes. Pourquoi ?
Ouais. C'est une bonne question. En fait, on a quand même des kinés, ostéos qui sont un peu plus classiques pour prendre soin des artistes. Mais kinés et ostéos prennent forcément, sont souvent consultés par les artistes parce que pour parler des douleurs et donc pour régler les douleurs. Donc l'idée aussi de pouvoir permettre un grand panel d'interventions thérapeutiques, c'est de permettre justement aux artistes d'avoir le choix et de se dire il n'y a pas que les approches médicamenteuses qui vont me permettre de me soigner, il n'y a pas que le kiné ou l'ostéo. Bien sûr, kiné, ostéo et les médicaments sont nécessaires. Voilà, donc pour quand il y a besoin vraiment d'agir très rapidement et tout de suite, voilà, donc quand on a des vertèbres déplacées, bien sûr que l'ostéo est indispensable, le kiné également pour travailler les muscles, mais pour éviter que ça se reproduise, il y a sûrement d'autres moyens. Et notamment moi, quand les artistes s'aperçoivent que ça fait une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois qu'ils ont les mêmes douleurs, les mêmes problèmes de santé, il y a un moment, c'est pas le kiné qui va réparer le corps tous les 3 mois. Donc il y a forcément d'autres approches. Donc on peut s'approcher, on peut travailler sur la posture, mais on peut travailler sur l'alimentation, sur la façon de dormir, sur la façon de respirer, sur la façon de se tenir. Enfin, il y a plein de choses qui permettent justement d'éviter d'aller voir à répétition des kinés ou des ostéos.
Alors on revient sur les chiffres que vous relayez dans votre dossier de présentation. Vous allez peut-être pouvoir justement nous en présenter quelques autres, puisqu'on trouve aussi des chiffres sur la précarité, on trouve des chiffres sur le sexisme, sur son impact psychologique aussi. On peut peut-être en détailler quelques-uns si vous le voulez bien, Stéphane Cognam.
Oui, alors malheureusement j'étais pas sous les yeux, mais par exemple on a une dernière étude qui est sortie aux États-Unis, en Angleterre, il y a pas très longtemps, sur le fait que 64% des musiciens envisagent de se reconvertir professionnellement suite à la période Covid. Donc là, on espère que quelqu'un fera une étude aussi sur en France pour savoir un peu où on en est. Voilà, il y a des chiffres qui sont sortis notamment avec des collaborateurs de l'association La Cura qui ont présenté l'année dernière leurs chiffres sur la santé mentale des musiciens, où là, alors j'ai plus les chiffres en tête.
4 musiciens sur 5 déclarent souffrir de troubles du moral, effectivement, et 1 sur 4 de mémoire est en dépression.
C'est ça, donc 1 sur 4 en dépression, 4 sur 5 ont souffert de troubles, voilà, donc de santé mentale. Voilà, il y a des chiffres qui sont souvent éloquents, et quand on regarde l'entièreté des chiffres, parce que sur le site d'Absart, on essaie de recenser aussi la majeure partie des données qui peuvent exister, des mémoires, voilà, qui peuvent sortir et qu'on a du mal à trouver. Et on s'aperçoit que souvent les chiffres dans le milieu artistique sont bien au-delà des moyennes nationales. Que ce soit sur le sexisme, sur les atteintes sexuelles et sexistes, sur les dépressions, sur l'alcoolisme, sur le tabagisme, enfin tous ces chiffres-là sont bien plus importants que dans la moyenne nationale.
Mais comment se construisent ces chiffres justement ?
Alors ces chiffres sont établis par des organismes sociologiques ou épidémiologiques, alors souvent à l'étranger. En France, il n'y a pas beaucoup d'études, même si ça commence à arriver. Mais
c'est tout récent, en tout cas, puisque c'est en train de se lancer, d'ailleurs, sauf effectivement l'étude de La Cura qu'on évoquait il y a un instant. Mais on a l'INSART, l'Institut de soins thérapeutiques pour les artistes, qui va aussi lancer une étude prochainement. Mm-hmm. Mais on a du mal, finalement, à trouver ces chiffres.
Oui, on a du mal à trouver ces chiffres. Alors, grâce au réseau qu'on a mis en place depuis quelques années, on arrive maintenant à avoir des études qui sont faites par des des organismes médicaux comme au sein du CMB, le Centre médical de la Bourse, mais au sein de l'INRS, au sein des ARACT, au sein des écoles d'ostéo aussi, parce qu'il y a dans les écoles de médecine, d'ostéo, de kiné, etc., font forcément, ont des étudiants qui font des mémoires. Et donc certains sont artistes, donc au fur et à mesure, on s'aperçoit que quelques-uns ont fait leurs études et leurs mémoires sur ces sujets. Et donc au fur et à mesure, des réseaux qu'on constitue et de la connaissance que les gens ont d'Absart, ils nous transmettent leurs mémoires pour que ces mémoires soient disponibles. Tu commences sur le site internet d'Absart pour que bah, justement aider les futurs étudiants et les personnes qui ont besoin de données épidémiologiques de pouvoir se référer à quelque chose d'étudié et de vérifié, quoi.
L'idée, je suppose, c'est que l'ensemble de ces données, qu'elles soient collectées par différents organismes, c'est que ça devienne finalement une sorte de baromètre de la santé des artistes.
Oui, on aimerait bien. C'est vrai que l'idée, c'est quand même qu'à partir du moment où des études sont faites, notamment en France, qu'on puisse les faire régulièrement pour justement avoir une sorte de suivi, de baromètre, voilà, comme effectivement l'a fait la Cura sur la santé mentale des musiciens et musiciennes dans les musiques actuelles, comme nous, on l'a fait aussi et sur lequel on va bientôt donner les chiffres sur une enquête qu'on a menée sur la grossesse et la parentalité dans le milieu artistique, parce que ces deux sujets sont aussi des sujets tabous dans ce milieu. Donc le but, c'est vraiment de développer les études, de donner aussi envie aux chercheurs, voilà, aux futurs étudiants, de se pencher sur ce domaine sur lequel il y a tellement de choses à faire, et pour permettre justement d'éveiller un peu les consciences et de que ce sujet, ces sujets deviennent de moins en moins tabous et deviennent vraiment des sujets de santé publique, parce qu'on est vraiment sur les sujets de santé publique.
Grossesse et parentalité, sujet tabou. Pourquoi dans ce milieu spécifiquement ?
Ah, sujet tabou. Alors sujet tabou qui est sorti un peu de dans l'actualité il y a 2 ans à peu près, quand une chanteuse d'opéra a été virée voilà d'un opéra parce que son contrat a été mis fin parce qu'elle était enceinte. Et en fait, on s'est aperçu dans le milieu artistique qu'on connaît bien il est compliqué pour des artistes de se dire quand est-ce que je vais tomber enceinte, voilà. Donc pour une femme, parce que je suis danseuse mais je commence ma carrière, donc est-ce que c'est le moment de tomber enceinte, si je tombe enceinte maintenant, même si je suis musicienne, est-ce que ça va pas avoir des conséquences sur ma pratique musicale, et puis je commence à avoir mon poste de professeur de musique, donc je suis pas encore titularisé en collectivité, donc si je tombe enceinte quand je suis stagiaire, quelles conséquences ça va avoir, est-ce que mon stage va être prolongé ou pas. Voilà, toutes ces choses-là qui ont des conséquences. Et puis, je suis intermittent du spectacle et que mon conjoint également est intermittent du spectacle, lequel des deux va mettre en parenthèse sa carrière pour pouvoir élever l'enfant. Toutes ces questions-là, c'est un sujet tabou puisqu'on ne se les pose pas. Quand le sujet du bébé arrive, il n'y a pas forcément de réponse auprès des institutions. Donc, à part potentiellement la mutuelle Audience et le Centre médical de la Bourse qui arrivent à répondre à ces questions, mais si les intermittents ne le savent pas, ils n'ont pas de réponse et se retrouvent souvent dans l'embarras, voire avec des contrats qui ne sont pas renouvelés.
Beaucoup de craintes, effectivement, on l'entend bien dans vos propos, Stéphane Cognam. Et tout ceci, tout ce dont on échange là depuis le début de cette émission, m'amène à me poser une question. Est-ce que finalement, sur le plan strictement thérapeutique, l'artiste est un malade comme les autres?
Alors, oui et non, je vous dirais. C'est sans doute parce que je suis un peu normand. Et alors oui, parce que c'est un artiste qui a, une tendinite est une tendinite, donc de toute façon, un trouble psychologique est un trouble psychologique. Donc en rentrant dans un cabinet thérapeutique, voilà, une tendinite sera une tendinite. Par contre, l'artiste va avoir une approche de son métier qui va être différente, d'où le fait que les thérapeutes soient vraiment connaissent vraiment ce milieu et vraiment cette appétence par rapport à ce milieu. Mais aussi, il faut aussi que le thérapeute puisse comprendre que l'artiste a un rythme de vie particulier. Que ce soit en sommeil, que ce soit en rythme de travail, etc. Et donc du coup, on peut pas le considérer comme un patient comme les autres.
Alors thérapeutiquement, c'est pas vraiment un patient comme les autres, mais il n'y a pas que la prise en charge thérapeutique, il y a aussi la prise en charge financière, multiplicité des statuts, intermittent, pas intermittent, employé de collectivité ou freelance indépendant. Il y a la multiplicité des régimes aussi, en fonction du nombre d'heures, en fonction du statut, en fonction de la pratique. Il y a tous ces régimes de mutuelle, de sécurité sociale, dans un métier qui est souvent précaire aussi, parce que il faut pouvoir cotiser, il faut aussi pouvoir payer justement sa cotisation mensuelle. Comment est-ce que vous les accompagnez ? Est-ce que vous les accompagnez tout d'abord sur ces questions là aussi ?
Alors, on les accompagne en faisant pour l'instant des conférences. On a travaillé notamment avec le Pôle emploi spectacle, donc Totem maintenant, parce que le nom a changé, donc sur lequel l'année dernière, lorsqu'on a fait notre semaine de la santé des artistes édition 3, nous avons fait quelques conférences avec justement l'ARACT, avec Audience, justement sur lesquelles Totem avait invité donc les intermittents du spectacle affiliés, donc enfin en tout cas dans lequel le listing était présent au niveau de Totem, à venir assister à une conférence et à poser directement leurs questions aux responsables d'Audience. Donc ce qui était vraiment intéressant, parce que c'est le genre de personnes qu'on a du mal à rencontrer. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Et autre chose, bah voilà, nous on essaye vraiment on toque aux portes de toutes les mutuelles, voilà, et assurances, pour justement arriver à développer des formules qui permettraient aux artistes, quel que soit leur statut, de pouvoir adhérer à une mutuelle autre que Audience, parce que je rappelle, Audience c'est quand même la mutuelle prioritaire auprès des artistes et qui fait bien son travail. Voilà, après on peut être pour Audience, je n'ai pas de pourcentage chez Audience, mais les autres mutuelles ont une part de responsabilité aussi en ne proposant pas des formules adaptées à ce genre de public qui justement, comme vous le disiez, ont des situations précaires, n'ont pas forcément les moyens de se payer des rendez-vous médicaux, ne vont voir les médecins quand vraiment c'est urgent et quand ils en peuvent plus. Donc quand on a une dizaine de vertèbres déplacées, là effectivement il faut commencer à y aller. Voilà, donc ça commence à devenir grave. Mais l'idée étant justement de pouvoir travailler avec des mutuelles pour que des formules à moindre coût mais suffisamment intéressantes pour les artistes puissent être proposées, pour que les artistes puissent justement aller voir les thérapeutes avant d'avoir mal. Et ça, c'est on a tous maintenant des mutuelles sur lesquelles des fois il y a des forfaits, des propositions, on peut voir un peu de médecine douce, mais des fois les artistes ne peuvent même pas payer ces mutuelles là qui leur permettraient au moins d'aller voir 2-3 consultations de naturopathe, de sophrologue, etc. Même ça, ils peuvent pas. Donc on aimerait avoir des partenaires financiers de mutuelles.
Alors, est-ce que ça bouge ? Du coup, est-ce qu'il commence à y avoir une prise en compte ? Ou est-ce qu'on est encore dans le domaine du sacerdoce quand on prend son bâton de pèlerin et qu'on va toquer aux portes de ces mutuelles ?
Alors, je suis plutôt un peu comme Sancho Pancha, hein. Donc voilà, donc avec on a l'impression des fois de se battre contre des moulins à vent. Peut-être que l'émission d'aujourd'hui permettra d'en arrêter un, on sait jamais. La difficulté, c'est que on est reçu souvent par des mutuelles, voilà, ou des assurances, et qui sont, quand on arrive à les convaincre, nous reçoivent gentiment, donc dans leur bureau, puis après ils disent oui, on vous rappellera, voilà. Donc on va pas plus loin. Donc c'est, mais on lâchera pas le morceau parce qu'on trouve que c'est vraiment la deuxième étape, outre le fait de créer une vraie maison médicale, c'est de pouvoir justement trouver un moyen financier pour permettre aux artistes de pouvoir consulter des thérapeutes à moindre coût et si possible à pas coût du tout.
Je vais poser la question très naïvement, Stéphane Cognam. À défaut de réussir à faire bouger les mentalités, est-ce que, comme pour le cabinet thérapeutique, il ne vaudrait pas mieux créer soi-même ce type de dispositif? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez, en tout cas?
On y pense. Donc on y pense, parce que c'est parfois plus simple, effectivement. Le cabinet thérapeutique, voilà, on l'a créé nous-mêmes. On a le soutien tout de même du Centre médical de la Bourse, et que voilà, qu'on remercie, qui nous soutient depuis plusieurs années, enfin depuis 3 ans maintenant, au sein de l'association, et qui nous a aidé financièrement à faire tourner ce cabinet thérapeutique. Mais voilà, si effectivement il n'y a pas de, on trouve pas de partenaire privé ou public, ben on le montrera nous-mêmes, parce que voilà, chez Absart, on sait que c'est indispensable pour prendre soin des artistes, et on veut vraiment permettre aux artistes de trouver vraiment un lieu unique sur lequel ils peuvent se faire soigner.
Radio Plus s'intéresse à la santé des artistes avec l'association APSAR. On aborde la troisième et dernière partie de cette émission.
Chaque jeudi matin, à partir de 9h, Radio Plus vous propose des magazines et reportages. Vous faites partie d'une association ? Venez partager vos activités. N'hésitez pas à nous contacter au 09 52 22 22 07 ou sur contact@radioplus.fr.
Stéphane Cognam, président de l'association APSAR, Association Prévention Santé des Artistes, est avec nous pour parler à la fois de santé des artistes, ce qu'on vient de faire sur les deux premières parties de cette émission, et là pour donner rendez-vous à ceux qui nous écoutent à l'occasion de la Semaine de la Santé des Artistes que vous avez créée. C'est la quatrième édition cette année en 2020. Elle débutera le 3 octobre prochain. Qu'est-ce qui a motivé la mise en place de ce rendez-vous ?
Alors quand on a créé l'association il y a 4 ans, on s'est dit que cette question de la santé des artistes est quand même, comme on disait depuis le début, un peu tabou. Donc on s'est dit, on n'est pas tout seul. Donc allez, montrons qu'on n'est pas tout seul en France et à l'étranger pour parler de la santé des artistes. Et donc on s'est dit, allez, pendant une semaine, on va proposer à nos partenaires et monter nous-mêmes des projets avec nos thérapeutes pour parler de la santé des artistes en une semaine, et que pendant une semaine, les réseaux sociaux, mais la presse, etc., se saisissent de ce sujet. Et plus on est nombreux sur une même période, plus on en parle, et donc plus on en parle, plus ça viendra aux oreilles de tout le monde, et le cercle vertueux fonctionnera.
Et un cercle vertueux qui existe depuis 4 ans maintenant, mais qui a vraiment vocation à sortir des murs. On n'est pas dans un événement 100% ch'ti.
Non, tout à fait. On est nos événements depuis le début sont avec nos partenaires étrangers aussi. Donc avec nos partenaires au Québec, par exemple, ou en Espagne, on monte aussi des événements. Alors bien évidemment, les projets sont pour une majeure partie ch'ti. On va dire 50%, le reste étant des projets qui se montent à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, à Nice, en Franche-Comté et aussi donc à l'étranger.
Comment vous retenez justement les projets qui vous sont soumis pour les intégrer à cette semaine ?
Alors ce sont vraiment des projets qui sont à destination de la santé, donc des artistes essentiellement. Ce sont soit nos thérapeutes qui proposent des projets, donc dans ce cas-là on les met en place dans les structures dans lesquelles on intervient déjà, puisque APSART intervient dans pas mal d'écoles et conservatoires dans le Nord. Donc on s'occupe actuellement de 1300 élèves et à peu près d'une centaine de professeurs. Donc on travaille bien. Et l'idée, c'est vraiment d'autres partenaires. Par exemple, je vais citer l'un des temps forts qu'on aura dans la Semaine Santé des Artistes le 10 octobre. Le 10 octobre, essentiellement, il y aura deux interventions aux Quatre Écluses à Dunkerque, donc ça c'est dans le Nord, donc ça c'est bien, et aussi une autre intervention au Mans dans une salle qui s'appelle le Silo, avec un partenaire donc qui avait déjà prévu d'intervenir le 10 octobre sur la santé mentale des musiciens, et qui a dit ce serait bête que moi je fasse un projet au Mans et vous faites votre semaine de santé des artistes, et soyez mon partenaire. Donc c'est aussi simple que ça. On est partenaire maintenant avec la salle Le Silo et la ville du Mans, et donc il y a un projet au Mans qui se met en place dans cette semaine de santé des artistes.
Alors cette semaine consacrée à la santé des artistes, on pourrait croire tout simplement qu'elle s'adresse aux artistes, mais pas uniquement finalement, thérapeutes, grand public aussi peut-être ?
Oui, elle s'adresse aux artistes principalement, aux thérapeutes aussi, parce que justement le but c'est aussi d'éveiller la curiosité des thérapeutes, et d'une part pour nous de trouver aussi des nouveaux thérapeutes, parce que certains thérapeutes vont être intéressés par notre semaine et se dire moi aussi je m'occupe d'artistes, donc est-ce que je peux faire partie du réseau, donc est-ce que je peux mettre des projets en place avec vous, donc ils sont les bienvenus. Et ça leur permet aussi d'être curieux, de se dire à certains thérapeutes, je ne savais pas que on pouvait parler du risque chimique des graffeurs. Tiens, pourquoi on parle du risque chimique des graffeurs ? Pourquoi on parle de la santé mentale des musiciens et des musiciennes ? Pourquoi on va parler des troubles oculaires des musiciens ou des circassiens ? Des choses comme ça, donc qui peuvent les rendre un peu curieux.
Alors on a évoqué un temps fort le 10 octobre, quels seront les autres temps forts de cette semaine consacrée à la santé des artistes ?
Alors on commence le 3 octobre avec trois interventions au sein de Vivat à Armentières, Donc sur dans le cadre des 30 ans du Vivat. Donc je vous invite à y venir si la période Covid le permet. Mais pour l'instant, c'est maintenu. Donc avec des interventions de préparation physique et préparation mentale et d'approche en méthode Feldenkrais pour les danseurs et danseuses de l'école de danse de d'Armentières. D'autres événements se déroulent par exemple à Saint-Omer avec un partenaire qui est un musicothérapeute qui lui propose des séances de musicothérapie à destination des artistes et notamment des enfants qui ont potentiellement des troubles de l'attention dans des ou des troubles autistiques et de travailler justement avec eux sur l'approche de la musique. Et donc le 10 octobre, donc les deux interventions, une sur la posture et une sur le stress au sein des quatre écluses à Dunkerque. Le reste des interventions, le programme est encore en finalisation. Donc je vous invite à vous rapprocher de la page Facebook Absart ou du site internet d'absart.fr pour en savoir un peu plus dans quelques jours.
APSARTS hein, pour épeler, pour qu'on puisse retrouver très facilement vos réseaux sociaux et votre site internet. On a parlé de la méthode Feldenkrais. En quoi ça consiste?
Alors c'est une méthode qui est très utilisée dans les pays de l'Est, donc pour auprès des musiciens notamment, et qui maintenant se développe aussi auprès des danseurs et danseuses. C'est une méthode qui allie le mouvement et qui permet de déstructurer un peu les habitudes qu'on peut avoir sur le mouvement, de réapprendre un peu le mouvement et de se dire voilà, au fur et à mesure de notre apprentissage et qu'on ait grandi, on a appris à faire tel ou tel mouvement d'une telle ou telle façon. Et la méthode Feldenkrais permet justement de déstructurer un peu tout ça, de se redonner des nouveaux réflexes et de s'apercevoir que il y a des amplitudes qui peuvent être beaucoup plus grandes que celles qu'on a. Et pour des musiciens ou des danseurs ou des circassiens par exemple, mais pour tout artiste, hein, c'est intéressant de pouvoir travailler, de désapprendre ses réflexes et de pouvoir comprendre que bah, des fois un mouvement, on peut aller jusqu'à telle amplitude, mais en fait bah, on peut aller encore beaucoup plus loin. Et donc en termes de travail sur les cordes par exemple, voilà, ou de mouvement instrumental, les musiciens et danseurs aussi, ils gagnent énormément.
Alors on parle de posture, c'est un petit peu votre dada, Stéphane Cognam. On a beaucoup, on l'a dit, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent un art, quel qu'il soit. Certains de manière professionnelle, beaucoup évidemment le pratiquent de manière amateur. On va s'adresser justement à ces musiciens, ces musiciennes amateurs. Quels conseils on peut leur donner pour adopter une bonne posture dans la pratique de leur instrument?
Oh.
J'imagine qu'il y en a beaucoup, mais s'il y en avait un à retenir comme ça qu'on pourrait donner à nos éditeurs.
Il y en a un à retenir, c'est l'ancrage au sol. En fait, l'idée principale, c'est vraiment de s'apercevoir que entre être debout et être debout avec un instrument, c'est totalement différent. Il y a le poids d'un élément supplémentaire qui soit porte vers plutôt le côté gauche si on est violoniste, vers l'avant si on est saxophoniste, trompettiste, enfin donc etc. L'idée, c'est vraiment de se dire, il faut vraiment garder cet ancrage au sol et garder une souplesse. Donc, s'il y a vraiment un conseil à garder, comme ça visuellement, c'est d'écarter un minimum les pieds, pas parallèles, mais vraiment un peu en quinconce, et de déverrouiller les genoux, parce qu'il faut que les genoux soient un peu des amortisseurs, donc comme les amortisseurs de voiture. Vos genoux sont vos amortisseurs, les cuisses sont des muscles super puissants et très intéressants à utiliser, et le mouvement du bassin, moi j'appelle ça le mouvement Beyoncé, voilà, mais vraiment apprenez vraiment à bouger votre bassin, à déverrouiller vos genoux, et mettre vos pieds pas en parallèle, décoller un peu les uns des autres, et un pied un peu vers l'avant, l'autre un peu vers l'arrière, et vous verrez déjà, vous allez gagner en équilibre et donc en posture.
Voilà un bon conseil pour tous ceux qui pratiquent effectivement un instrument et qui sont à l'écoute de cette émission. Alors, cette semaine de la santé des artistes du 3 au 10 octobre, comment est-ce qu'on peut assister au rendez-vous justement? Comment est-ce qu'on peut participer aux temps forts qui seront proposés?
Alors, tous les événements organisés par Absart sont gratuits. Après certains partenaires comme au Mans, il peut y avoir un droit d'entrée. Après, il suffit simplement de réserver en allant donc sur la page Facebook de l'association, soit sur le site internet. Toutes les coordonnées seront disponibles et il suffit simplement de réserver sa place et puis bah c'est bon, vous pouvez venir. Si vraiment au cas où il y a un problème, n'hésitez pas soit à envoyer un mail, soit à téléphoner. Bon, voilà, on est toujours disponible, on vous répond très rapidement et on s'arrange pour que vous puissiez soit venir, soit bah si vous ne pouvez pas venir et que le projet vous intéressait, bah pourquoi pas monter un projet dans votre structure.
On va communiquer justement le numéro de téléphone où joindre Apsar.
Oui, donc c'est le 06 63 60 70 97.
On va le répéter pour que tout le monde ait le temps de bien noter.
06 63 60 70 97.
Ma dernière question, Stéphane Cognam, pour clore cette émission consacrée à la santé des artistes, on sent que ça bouge. On voit vraiment qu'il y a une prise de conscience, au moins de la part des artistes qui osent désormais appeler à l'aide, qui se bougent aussi hein, pour communiquer justement sur leurs difficultés. On pense effectivement au collectif Cura qui est rattaché à la Guilde des artistes de musique. Ce sont donc les artistes eux-mêmes qui ont pris le problème à bras-le-corps. Est-ce que ça va finir par bouger au niveau des institutions et qu'est-ce qui reste à faire alors qu'un réveil est entrepris en ce moment?
Alors, le réveil est entrepris par les artistes, par grâce aussi à des artistes comme Stromae, comme des pianistes ou des musiciens ou des chanteurs, voilà, qui osent parler aussi de leurs difficultés. Donc ça, c'est très important aussi. Ça permet vraiment d'évoluer, de faire évoluer les mentalités. Des structures aussi, enfin les structures de musique actuelle commencent aussi à appréhender la problématique. Donc une conférence a eu lieu dans le cadre du festival Crossroads la semaine dernière à Tourcoing, mis en place notamment par la Lune des Pirates d'Amiens. Et donc on sent vraiment aussi que les structures commencent à bouger. Donc ça, c'est vraiment, il y a une prise de conscience aussi dans ce domaine-là. Et ce qui manque maintenant, c'est les institutions. Donc voilà, on aimerait bien aussi que les structures comme les structures ministères, les DRAC, etc., se saisissent de ces problématiques pour justement lever le tabou de ces questions dans les structures culturelles. Et puis bah, aussi au niveau du ministère, que ça puisse être pris en charge et pris en main pour que la question notamment financière puisse être étudiée.
Est-ce que ça bouge justement? Probablement pas assez vite, ça
non,
on est d'accord, mais est-ce que ça bouge?
Ça bouge. Moi, je suis très optimiste. Donc, on voit que ça bouge. Donc, rien qu'il y a 4 ans, quand on a créé l'association, il y avait beaucoup plus de difficultés à contacter les structures et à faire venir les artistes sur les thématiques. On sent que ça bouge. Peut-être pas encore assez, mais on sent que ça bouge et on espère vraiment qu'avec toutes les structures culturelles qui se saisissent des sujets, des structures comme la GAM, la Cura, voilà, ou nous, le CMB, voilà, que les artistes puissent continuer vraiment à se saisir de cette problématique, parce que c'est leur santé qui est en jeu, et la santé aussi des futurs artistes qui vont les suivre.
Eh bien, merci beaucoup Stéphane Cognam, président de l'association APSAR, d'avoir été notre invité, association de prévention de la santé des artistes. Je rappelle que la semaine de prévention de la santé des artistes, vous l'animez, vous l'organisez du 3 au 10 octobre prochain. Pour obtenir toutes les informations, tout le programme, direction le site ou le Facebook d'APSAR, APSARTS. Vous tapez APSAR dans votre moteur de recherche et vous allez retrouver ça très facilement. On rappelle également le numéro de téléphone, le 06 63 60 70 97. Merci à vous Stéphane Cognam d'avoir été notre invité.
Merci à vous.
C'est la fin de ce numéro de Mardi Magazine consacré à la thématique épineuse de la santé des artistes. Vous l'avez entendu, hein, beaucoup de ressources commencent à sortir sur le sujet. Vous pouvez notamment retrouver l'étude du collectif Cura sur le site internet cura-musique en anglais. .fr, étude très très intéressante qui vous permet d'en savoir plus justement sur la santé, particulièrement la santé mentale des artistes, sujet que l'on va suivre aussi de près ici sur l'antenne de Radio Plus. Cette émission, vous allez pouvoir également la retrouver en podcast dès demain sur le www.radioplus.fr, rubrique émission spéciale. Très belle soirée à toutes et à tous. Les programmes prennent le relais sur Radio Plus. Musique et puis bien sûr humour et bonne humeur sur Radio Plus dans quelques instants. Très belle soirée.